Bonjour. Nous en sommes déjà au 14e épisode de cette série de 16 épisodes sur les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Cette série est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » par le père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver les entretiens en anglais sur la chaîne YouTube Discerning Hearts. C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. 12e règle. Notre ennemi ressemble à une femme. Il en a la faiblesse et l'opiniâtreté. C'est le propre d'une femme, lorsqu'elle se dispute avec un homme, de perdre courage et de prendre la fuite aussitôt que celui-ci lui montre un visage ferme. L'homme, au contraire, commence-t-il à craindre et à reculer ? La colère, la vengeance et la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de mesure. De même, c'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Au contraire, si la personne qui est tentée commence à craindre et à supporter l'attaque avec moins de courage, il n'y a pas de bête féroce sur la terre dont la cruauté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature humaine s'attache à poursuivre ses perfides desseins. On en est maintenant à la règle numéro 12. Vous remarquerez que le ton a changé, même si bien sûr l'objectif de Saint Ignace reste le même. On ne parle plus ici de désolation, ni d'outils ou de recommandations pour y faire face. On ne parle plus des trois étapes du discernement. Prendre conscience du poids qui pèse sur tout notre être dans notre relation à Dieu quand la désolation spirituelle arrive, c'est la première étape. Pour pouvoir la nommer, la comprendre, c'est la deuxième étape, qui nous rend libres de réagir de façon appropriée, c'est-à-dire de la rejeter. C'est la troisième étape, en utilisant les outils qu'Ignace met à notre disposition. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Comment faire face et nous libérer de ce mal-être spirituel qui arrive quelquefois dans la vie de foi et qui constitue le plus grave défi spirituel que la majorité d'entre nous ait à confronter. Dans cette règle, Ignace se concentre sur autre chose, la tentation, qui est une tactique de l'ennemi apparentée à la désolation mais différente. La désolation spirituelle est une pesanteur, un mal-être dans la vie spirituelle. Pas d'énergie pour prier, Dieu semble loin, etc. On en a parlé plusieurs fois. La tentation, d'un autre côté, est simplement une suggestion trompeuse de l'ennemi. Pourquoi tu ne fais pas tes prières plus tard? Tu peux bien aller sur ce site web, tu l'as déjà fait et ça n'a pas été si grave, ne t'inquiète pas, etc. La tentation, au moins initialement, ne s'accompagne pas nécessairement d'un inconfort. Au contraire même, elle peut paraître très attirante, au moins au début. Dans les trois dernières règles, 12, 13 et 14, Ignace cherche à nous montrer les caractéristiques, les modes de fonctionnement de la tentation pour que nous puissions reconnaître les ruses de l'ennemi et encore une fois, en prendre conscience, les comprendre et prendre les mesures nécessaires pour les contrer. Bien connaître ces trois règles est extrêmement utile pour résister aux tentations de l'ennemi. Le changement d'orientation de ces trois règles n'est cependant pas énorme parce que le plus souvent, c'est quand on est en désolation spirituelle que les tentations apparaissent. En fait, les deux tactiques arrivent très souvent en même temps. Il s'agit du même ennemi qui essaye de nous attirer au même endroit. Et pour nous, il s'agit de ces trois mêmes étapes indispensables, prendre conscience, comprendre et réagir en rejetant ces tactiques. Pour chacune de ces trois dernières règles, Ignace utilise une image frappante, une métaphore, une sorte de parabole. Dans la première partie de chaque règle, il raconte une sorte d'histoire. Et dans la deuxième, en bon pédagogue, il en tire une leçon. La métaphore de la règle numéro 12 est un peu difficile, parce qu'Ignace présente une image de la relation homme-femme qui n'est certainement pas représentative du projet de Dieu. Dieu souhaite que les hommes et les femmes se complètent et s'aiment, ce qui est naturel, et non qu'ils luttent l'un contre l'autre, ce qui est contre nature. Si cette métaphore de l'homme et de la femme se disputant nous choque, c'est tout à fait normal, parce que c'est précisément une métaphore du travail de l'ennemi. En réalité, dans ces trois dernières règles, Ignace ne parle plus de l'ennemi tout court, mais de l'ennemi de la nature humaine, celui qui est contre toute la beauté que Dieu a mise dans la nature humaine. Alors il n'est pas surprenant que les métaphores, celles de la 12e règle, mais les autres aussi, nous rendent inconfortables. Elles nous dérangent justement parce qu'elles illustrent la façon d'agir de l'ennemi et qu'elles sont contre nature. Il serait presque inquiétant de ne pas être mal à l'aise devant les comportements décrits. Dans la règle suivante, la règle numéro 13, il s'agit d'un homme qui essaye de séduire et d'abuser une honnête femme. Encore une fois, une situation contre le plan de Dieu, contre nature. Et dans la dernière, la 14e, il s'agit du chef d'une bande de voleurs qui essaye de piller, de mettre à sac, de saccager et de détruire une place forte. Clairement encore un personnage complètement contre la nature humaine du plan de Dieu, une incarnation de l'ennemi. Certains auteurs, quand ils commentent la règle numéro 12, préfèrent tout simplement prendre une autre métaphore, parce que celle de l'homme et de la femme se disputant est vraiment difficile et peut être vue comme dégradante. Et ça fonctionne très bien également avec une autre métaphore. Une des métaphores utilisées à la place est celle d'un enfant gâté et de ses parents. On retrouve la même caractéristique contre nature, car Dieu n'a jamais voulu que les enfants soient gâtés et se comportent mal avec leurs parents, mais c'est une image plus accessible. C'est d'ailleurs cette métaphore moins dérangeante que nous allons utiliser dans la suite de notre conversation. Que dit la règle numéro 12 ? L'ennemi agit comme une femme qui est faible devant la force et forte devant la faiblesse. Si on oublie la métaphore, cela veut dire que l'ennemi est faible. Si on lui oppose la force, si on est déterminé à résister fermement à la tentation. Et l'ennemi est fort s'il rencontre la faiblesse en face de lui. Si on cède, si on hésite, alors les tentations vont devenir de plus en plus fortes. C'est la caractéristique clé de l'ennemi que saint Ignace veut mettre en évidence. C'est plein d'espoir parce que le message de base, c'est que l'ennemi n'est pas plus fort qu'un enfant gâté. On a tous vu quelque part dans un lieu public, dans un magasin, dans un aéroport, la scène d'un petit enfant gâté de 2 ou 3 ans qui commence à faire une crise à ses parents. La situation peut vite devenir hors contrôle. L'enfant commence sa scène et en même temps, il surveille du coin de l'œil la réaction de ses parents. S'il les voit se tordre les mains d'un air désespéré et suppliant, il démarre à fond et la situation peut prendre des proportions démesurées. Le même enfant gâté commence sa scène tout en surveillant la réaction de ses parents et cette fois, il aperçoit des nuages noirs dans leurs regards et voit arriver la correction imminente. Et la scène finit là. C'est fini parce que la seule chose dont le petit enfant peut profiter pour faire sa crise, c'est de la faiblesse de ses parents. Si les parents décident d'être fermes avec lui, la crise s'arrête. Ignace nous dit que l'ennemi fonctionne avec ses tentations comme le petit enfant gâté. De la métaphore, il tire une leçon. L'ennemi est faible. Quelle nouvelle réjouissante! On n'imagine pas l'ennemi faible, on pense toujours que c'est nous qui sommes faibles et impuissants. Comme l'homme seul dans sa chambre à 9h du soir, il n'a pas envie de prier, Dieu semble vraiment loin, il y a la télécommande pas loin, la télé en face de lui ou la souris et l'internet. Et ces endroits sur le web où il ne devrait vraiment pas aller. Il se sent très faible, impuissant devant toutes ces tentations. Il est en train de penser que c'est presque inévitable qu'il cède. Il y a cette voix qui lui dit « Tu as déjà cédé tellement souvent, tu vas tomber cette fois encore. » Il se sent très faible et l'ennemi lui apparaît très fort. C'est cette double perception erronée qu'Ignace veut nous aider à corriger. La vérité est très différente. Quand nous sommes déterminés à être forts devant la tentation, pourquoi tu ne fais pas tes prières plus tard ? Non, j'avais décidé de prier maintenant et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, nous dit saint Ignace, c'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations. C'est vraiment réjouissant, l'ennemi s'enfuit, il abandonne ses tentations. Quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Tu vas prier maintenant ? Pourquoi tu ne le fais pas plus tard ? Non, j'avais décidé de prier maintenant et c'est exactement ce que je vais faire. Je fais exactement le contraire de ce que l'ennemi me suggère. Au contraire, dit Ignace, si la personne qui s'exerce aux choses spirituelles, la personne qui aime Dieu et veut le servir, qui veut vivre en disciple de Jésus, commence à craindre et à se décourager devant les tentations et à supporter l'attaque avec moins de courage. Pourquoi tu ne fais pas tes prières plus tard ? C'est vrai que je n'ai pas très envie pour l'instant. Je suis fatiguée. Je pourrais les faire plus tard. Il n'y a pas de bête féroce sur terre dont la cruauté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature humaine, celui qui est contre la nature humaine telle que voulue par Dieu, s'attache à poursuivre ses perfides desseins. Imaginez une haute montagne couverte de neige. Une boule de neige commence à rouler du haut de la montagne. On peut l'arrêter d'un seul doigt. Arrivée au milieu de la pente, elle est devenue énorme, lourde et rapide et emporte tout sur son passage. Si la personne qui a prévu de prier à une certaine heure commence à négocier avec elle-même, « Oui, c'est vrai, je pourrais prier plus tard, je n'ai pas très envie maintenant. » Est-ce que vous pensez qu'elle va prier ce jour-là? En fait, on peut résumer la règle 12 en une recommandation simple. Restez ferme dès le début. C'est là qu'Ignace veut en venir. Si ce qu'explique Ignace est vrai, s'il y a effectivement un effet boule de neige aux tentations de l'ennemi, et si effectivement la seule force de l'ennemi, c'est notre manque de résistance, comme les parents avec leur enfant gâté, alors la conclusion est très claire. Le moment critique pour réagir aux tentations est le tout début, dès qu'elles se présentent. Et si nous sommes prêts à résister fermement dès le départ, la boule de neige ne commencera même pas à rouler et nous nous épargnerons tellement de douleurs et de peines. Par exemple, à quel moment c'est le plus facile, avec l'Internet, d'arrêter de naviguer dans les sites qui nous font du tort, à regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder? Le moment le plus facile est avant même de toucher à la souris, avant même le premier clic. Un clic conduit à 20, à 50, à 100. La grâce du Seigneur est toujours disponible, mais ça deviendra de plus en plus difficile. Je crois que nous sommes tous capables de voir que c'est très vrai, nous l'avons tous vécu dans un domaine ou dans un autre de notre vie. Plus nous laissons la tentation nous éprouver, plus il est difficile d'y résister. Et si nous avons la sagesse et avec la grâce de Dieu le courage de dire non, fermement, tout de suite, notre vie spirituelle deviendra bien plus facile. C'est une règle puissante et réconfortante. Écoutons-la avec attention, ne l'oublions jamais. Elle change notre vie. Nous avons dans la Bible un exemple très frappant de ce mécanisme. Quand on compare la tentation d'Ève par le serpent dans la Genèse et la tentation de Jésus au désert, Ève écoute le serpent et se demande « Est-ce que Dieu a vraiment dit « Vous mourrez » ?»« Non, il a dit plutôt. » Et le dialogue commence, et elle écoute, et elle répond, et le tentateur continue, et la boule de neige commence à descendre la pente, et elle écrase Ève. Bien sûr, il y aura quand même la rédemption, mais énormément de peine et de chagrin ont découlé de cette faiblesse. La réponse de Jésus au tentateur dans le désert après son baptême est totalement différente. « Ordonne que ces pierres se changent en pain, dit le tentateur. » Et la réponse de Jésus est immédiate, instantanée. Il cite la parole. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et c'est tout, c'est fini. Mais comment différencier une invitation, un appel de Dieu auquel on voudra certainement répondre, et une tentation de l'ennemi? Est-ce qu'on peut les confondre? Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout l'enseignement de saint Ignace sur la consolation spirituelle et la désolation spirituelle est essentiel pour discerner entre les deux invitations, celle à suivre l'appel de Dieu, de celle à chuter qui vient de l'ennemi. Si le changement que j'envisage de faire en réponse à l'invitation que je pense percevoir arrive à un moment où je réalise que je suis en désolation, on retrouve encore les trois étapes fondamentales. Prendre conscience, comprendre et réagir. Je sais clairement que cela ne vient pas de Dieu. C'est un changement que je ne devrais pas faire, une invitation que je ne devrais pas suivre. On reconnaît la règle numéro 5. En temps de désolation spirituelle, ne jamais apporter aucun changement. Maintenant, si je suis dans une période de consolation, si mon cœur est rempli de joie, que je pense au Seigneur et que je le sens proche, cette idée de prendre une nouvelle responsabilité dans la paroisse ou de changer ma relation avec un membre de ma famille pour mieux vivre selon l'exemple de Jésus, ou d'assister à la messe chaque jour quand c'est possible, ou d'aller plus souvent demander le sacrement du pardon, dans ce cas j'ai plusieurs indications que cette idée que j'ai, cette invitation que je sens, vient très certainement du Seigneur. Finalement, on peut dire que si jamais on a un doute, si la réponse à savoir de qui vient l'appel n'est pas claire, on fait de notre mieux. On n'est pas sûr que cette idée de faire ce changement ou de commencer cette nouvelle initiative vient du Seigneur ou pas. On fait du mieux qu'on peut. Et surtout, comme on le verra dans la règle suivante, on se fait accompagner. Ignace recommande de ne pas rester seul sur le chemin de la vie spirituelle, mais si possible, de parler à une personne dont on reconnaît la sagesse spirituelle, la compétence, l'expérience, le bon sens, qui pourra aider à y voir plus clair dans les moments de discernement importants. Ces règles de discernement ne sont pas faites pour être exercées en solitaire. Les Écritures le disent dès le début, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça s'applique dans tous les domaines et certainement dans la vie spirituelle. Quand on n'est pas sûr s'il est possible de parler à un guide spirituel, c'est la meilleure chose à faire. Écoutons ce que saint Ignace écrivait à sœur Teresa Rejadel, une fidèle disciple du Seigneur qui vivait à Barcelone et pour qui il était un guide spirituel. Il écrit « Si l'ennemi voit que nous sommes faibles et impressionnés et affectés par ses pensées nuisibles, ses tentations, il continue, c'est l'effet boule de neige dont on parlait, il continue à suggérer que nous sommes complètement abandonnés par Dieu notre Seigneur et nous conduit à penser que nous sommes loin de lui et que tout ce que nous avons déjà fait et tout ce que nous voulons faire sont complètement inutiles et vains. Il s'efforce ainsi de nous amener à un état de découragement complet. Quand nous tombons dans cet état de découragement, la boule de neige est déjà loin dans la pente et déjà très grosse. Avec un tout petit peu d'introspection, on peut tous retrouver des moments où nous n'avons pas résisté fermement dès le début et où la boule de neige est devenue très lourde et le découragement très profond, où nous avons abandonné nos prières, cessé nos activités à la paroisse. Il est assez facile d'arriver à ce niveau de découragement et c'est là que l'ennemi veut nous conduire parce qu'alors nous devenons très vulnérables à toutes sortes de dangers spirituels. C'est pour cela que nous devons toujours nous souvenir de cette règle, ne jamais l'oublier, résister fermement dès le début. Si nous faisons ça, la boule de neige ne commencera pas à rouler et nous nous épargnerons bien des peines, de la tristesse et du chagrin sur notre route avec Dieu. Saint Ignace raconte qu'au début de sa conversion, il traverse l'Espagne d'est en ouest pour se rendre à Manresa, où il passe 10 mois en prière intense. En fait, c'est là qu'il écrit l'essentiel des exercices spirituels. Il y mène une vie de pénitence sévère, de prière et de service aux pauvres, et sa relation à Dieu se développe énormément. À un moment, une pensée commence à le torturer, comme si quelqu'un lui murmurait à l'oreille « Comment crois-tu que tu vas pouvoir endurer cette vie de misère pendant les 70 prochaines années qui te restent à vivre ?» En d'autres termes, maintenant c'est lourd, c'est difficile de vivre une vie fidèle à Dieu, c'est un prix élevé à payer. C'est difficile et ça va continuer à être aussi difficile et même plus difficile année après année. On reconnaît la lourdeur de la désolation, on voit comment elle commence à prendre le contrôle et à prédire l'avenir de sa vie spirituelle. Heureusement, saint Ignace discerne rapidement qu'il s'agit de l'ennemi. Il rejette la pensée et ça s'arrête là. Il s'en libère. C'est la dynamique de la règle numéro 12. Le père Gallagher raconte, avec son autorisation, ce qui est arrivé à Steve, un séminariste, devenu depuis un excellent prêtre, pendant la retraite qu'il faisait quelques semaines avant son ordination au diaconat, une étape décisive avant l'engagement à la prêtrise pour le reste de la vie. C'est l'étape où le futur prêtre s'engage au célibat et entre dans les ordres comme diacre. Un soir, pendant la retraite, Steve n'a pas grande énergie. Il commence son temps de prière, mais le raccourcit. Règle numéro 5, il n'aurait pas dû changer un plan qu'il avait établi avant le début de la désolation. Il va se coucher, se lève le lendemain matin, un peu en retard, pas très content de ce qui se passe, frustré, privé de la joie de sentir la proximité de Dieu. Bon, vous l'avez deviné, en pleine désolation spirituelle. La matinée progresse et une pensée se forme dans son esprit. Regarde-toi. Si tu ne peux même pas gérer de petits engagements, prier comme tu l'avais prévu, continuer ta retraite comme tous les autres, comment crois-tu que tu vas faire face aux responsabilités majeures d'un prêtre jusqu'à la fin de tes jours ? La situation est devenue vraiment critique pour Steve. La pensée attaque directement sa vocation même, alors qu'il est sur le point de s'engager. Heureusement, il va tout de suite rencontrer son directeur de retraite pour lui parler de son malaise. Et le directeur l'aide à voir clairement qu'il s'agit d'une tactique classique de l'ennemi, qu'il est en désolation et que les pensées qui l'assaillent sont des tentatives de l'ennemi pour le décourager. Steve comprend ce qui se passe et réagit en rejetant ses pensées troublantes. Avec l'aide du directeur, il est en mesure de parcourir les 3 étapes du discernement, ce qu'il n'avait pas été capable de faire tout seul. Il a pris conscience de sa désolation, il comprend que les pensées qui l'ont déstabilisé sont une tactique de l'ennemi, et maintenant il arrive à les rejeter. C'est encore un exemple de l'importance d'être accompagné. Steve n'y arrivait pas tout seul, mais avec l'aide d'une personne sage et expérimentée, il y arrive. Steve est prêtre maintenant, et la tactique de l'ennemi a été contrée et n'a pas fonctionné. On pourrait imaginer un autre déroulement. Que se serait-il passé si ce soir-là, quand il était tenté de raccourcir son temps de prière, Steve avait tenu bon et avait prié comme prévu, fidèlement, pendant toute la période planifiée? La boule de neige n'aurait pas commencé à rouler. Est-ce que cette pensée troublante qui remettait en cause sa vocation se serait formée dans son esprit le lendemain matin? Il y a de grandes chances que non. C'est la sagesse de la 12e règle. Voici une ligne de la célèbre règle de Saint Benoît, un des textes importants de l'histoire de l'Église. Elle provient de la section qu'il intitule « Les instruments pour bien agir », dans laquelle il donne de courts dictons qui sont comme des outils pour aider à vivre la vie spirituelle. Celui-ci est le 55e. « Dès que des pensées mauvaises nous viennent au cœur, dès que, immédiatement, c'est l'essentiel de la règle 12, immédiatement, dès le début. Les pensées mauvaises, ce sont les tentations, les suggestions troublantes de l'ennemi qui nous viennent au cœur. C'est encore la 12e règle. Quand le père Gallagher donne une retraite sur ces règles, il aime bien donner la première moitié du dicton de Saint Benoît. Dès que des pensées mauvaises nous viennent au cœur, et laisser les participants imaginer la suite en utilisant ce qu'ils viennent d'apprendre au sujet de la règle numéro 12. Les réponses doivent être très intéressantes. Mais voici la suite écrite par Saint Benoît. « Dès que des pensées mauvaises nous viennent au cœur, les fracasser immédiatement contre le Christ. » Quelle image forte! Les fracasser contre le Christ. Le Christ est un roc solide. Vous prenez les pensées et vous les brisez en 1000 morceaux comme se briserait une assiette ébréchée en 1000 morceaux impossibles à recoller. Dès que des pensées mauvaises, tu feras tes prières plus tard, tu peux toujours aller voir ce site web encore une fois, nous viennent au cœur, les fracasser immédiatement contre le Christ. Et Saint Benoît termine, s'en ouvrir au Père spirituel. C'est la règle numéro 13 qu'on verra dans la prochaine conversation. Parler à une personne sage et compétente. On retrouve la même idée dans une parole de Saint François d'Assise selon une biographie écrite peu de temps après sa mort. Le biographe écrit « Le saint s'assurait de rester toujours dans la joie du cœur et de préserver sur lui l'onction de l'esprit et de l'huile de joie. Il évitait avec le plus grand soin la misérable maladie de la tristesse, à tel point que, et voici la règle numéro 12, s'il la sentait s'introduire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout au début donc, dans son esprit, il utilisait très rapidement le secours de la prière. C'est parfait, c'est encore l'intuition d'un saint. Juste quand la tentation commence, il se tourne immédiatement vers la prière. Car, disait-il, si le serviteur de Dieu, comme cela peut arriver, à nous aussi évidemment, et troublé d'une manière quelconque, il devrait se lever immédiatement pour prier et il devrait rester en présence de notre Père Céleste jusqu'à ce qu'il restaure en lui la joie du salut. » C'est exactement le contenu de la règle numéro 12. Même les grands saints ont subi les assauts de la tentation contre lesquels la règle numéro 12 veut nous équiper. On constate que Saint Ignace n'a rien inventé. Saint Benoît et Saint François avaient énoncé la vérité de la règle avant lui. C'est la même chose pour les autres règles, d'ailleurs. Quand on les a comprises, elles paraissent évidentes car elles représentent très concrètement notre vécu spirituel. Mais la force de Saint Ignace, son legs pour nous, c'est d'avoir mis des mots clairs et une structure simple pour expliquer comment Dieu, le bon esprit, œuvre en chacun de nous et comment l'ennemi, le mauvais esprit, fonctionne contre nous. C'est pour cette raison que quand on lit des vies de saints, on retrouve les règles de saint Ignace partout, parce que n'importe qui, et c'est encore plus vrai pour un saint, qui réfléchit à sa vie spirituelle, reconnaît les patterns que les règles dévoilent, vu qu'elles décrivent le fonctionnement de la vie spirituelle normale. Alors pour le père Gallagher, qui connaît intimement les règles, il est très facile de les repérer dans les biographies et les écrits des saints qu'il lit, chez saint Benoît, chez saint François, chez sainte Thérèse d'Avila, sainte Elisabeth Seton, en fait tous les saints. Les règles deviennent apparentes dès qu'on les connaît. Et pour les mettre en œuvre dans la vie de tous les jours, il reste à appliquer les trois étapes du discernement que vous êtes fatigué d'entendre répéter. Prendre conscience de ce qui se passe en nous, comprendre la situation et réagir de façon adéquate en acceptant l'œuvre du bon esprit dans la consolation et en rejetant les pièges de l'ennemi que sont la désolation et la tentation, et nous en libérer.